Troisième partie. Merci pour le pardon. Chapitre 10. Gina, 13 juillet 2018. Mon petit Adrien Danguin m'a appelé tout à l'heure. Le rendez-vous avec l'agence de détective est désormais fixé à 10h ce lundi 16 juillet. Il m'a trouvé un vol au départ de Nice, le 15, et a modifié la réservation de ma guest house new-yorkaise. Adrien, vous êtes un ange. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Sans aucun doute, ce que vous avez toujours fait. Vous vous débrouilleriez parfaitement toute seule, ma chère Gina. Il rit, convaincu d'avoir raison, puis continue. Et pour votre rendez-vous de cet après-midi, je vous envoie l'adresse par SMS, ok ? Il sent le flottement de mon côté. Par texto, pardon. SMS ou texto, c'est synonyme, Gina. Mais pourquoi inventer tant de mots compliqués alors qu'il suffirait de donner un sens plus moderne à des mots qui existent déjà, comme courrier ou télégramme ? Les téléphones d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'hier, mais on continue bien à les appeler téléphones, non ? Vous avez raison, Gina. Disons que je vous ai envoyé l'adresse par télégramme. Voilà, maintenant c'est plus clair. Il rit de nouveau, puis raccroche, et je me retrouve seule avec cet appareil qui n'a plus beaucoup de batterie. Quelle plaie cette technologie prétendument autonome qui nous enchaîne aux prises électriques. Il n'y avait qu'à voir dans la gare, lorsque je suis arrivée ce matin à Nice, les contorsions de ces jeunes gens vautrés à même le sol pour pouvoir brancher leur téléphone. Bon, j'arrête de faire ma réfractaire. À ma décharge, il faut avouer que ça n'est pas facile de passer en l'espace d'une vie de la préhistoire technologique à cette connexion permanente. Je déambule dans les rues du Vieux-Nice et les souvenirs remontent. La ville a pourtant beaucoup changé, mais il y a ce je ne sais quoi qui demeure dans l'atmosphère. Je m'imprègne des odeurs, des couleurs du Sud, dans les allées du marché aux fleurs du cours Saleya, avant de m'installer à la terrasse d'un de ces cafés. Je commande une eau pétillante et je pense à Chloé. Quand elle était petite, elle disait toujours une eau frétillante. Je trouvais ça adorable. Alors je ne l'ai pas corrigé et c'est resté. Lorsqu'elle est avec moi, elle emploie toujours ces termes, avec un large sourire. Il fait chaud, mais les rafraîchisseurs font leur effet. Je sors de mon sac la part de soca, achetée dans une ruelle étroite quelques instants auparavant. Je croque dedans et ferme les yeux, tentant de calmer l'inquiétude qui monte en moi. Le rendez-vous est fixé sur la promenade des Anglais, à proximité de cet hôtel Negresco que je connais si bien. Si je suis ici, ça n'est pas pour un merci. Je ne sais pas ce que j'attends de cette rencontre. Un pardon ? Une absolution ? Ce que je m'apprête à révéler, je n'en ai jamais parlé à personne. C'est ma honte la plus noire. C'est fou, l'effet d'une honte d'enfant. Ça vous bouffe de l'intérieur, ça vous détruit à petit feu tout au long de votre vie. Aujourd'hui, il faut que tout ça sorte de moi. Nous sommes en 1943. La vie est rude dans ce minuscule appartement insalubre de la rue Dal Pozzo. Nous y sommes installés, mon père et moi, depuis 4 ans. Je vais à l'école de filles de la rue Dante, mais dès que les cours sont finis, je rentre à la maison. Mon père travaille comme un fou, rentre tard, épuisé. Les échanges entre nous sont réduits à leur strict minimum. L'amour est là, bien sûr, et heureusement, sinon comment tenir ? Mais la plupart du temps, je suis seule. Et je n'ai pas d'autre choix que de m'occuper de l'intendance, du haut de mes 9 ans. Depuis quelque temps, nous manquons de tout. Les restrictions pèsent de plus en plus sur notre quotidien déjà difficile. Les cartes de rationnement alimentaire distribuées ne suffisent pas à nous nourrir. Mon père parlant très mal français, il s'est fait avoir au moment de la distribution. J'ai bien une carte J2 correspondant aux enfants de moins de 12 ans, mais lui aurait dû avoir une carte de travailleur de force. Il n'a droit qu'à une ration d'employé de bureau. Alors, je fais souvent semblant de ne pas avoir faim et garde un peu plus pour lui. Je survis grâce au déjeuner servi à l'école et à la ration de lait en poudre que l'on nous donne l'après-midi. Mon père est un homme triste et très pieux, qui prie chaque soir longuement en contemplant et caressant une photo de maman. Mon petit frère n'ayant pas vécu suffisamment longtemps, nous n'avons aucune photo de lui. Mon père est le plus souvent vêtu de noir, et a toujours un chapelet fourré dans sa poche, au milieu de tout un bric-à-brac constitué d'outils et de petits objets ramassés çà et là en vue d'une utilisation ultérieure. Il me propose parfois de venir l'aider sur un chantier. Le travail est dur, surtout pour une gamine, mais je suis si heureuse d'être à ses côtés. Je l'admire. Il m'apprend à scier le bois en rondins de 20 cm et je fais comme si les moqueries des autres enfants sur mon père boiteux ne m'atteignaient pas. Des commerçants de ma rue ont repéré que je suis seule la plupart du temps et certains ont entrepris de m'aider contre quelques menus travaux. Un soir, la bouchère de la rue d'Al Pozzo, Madame Berton, me demande de venir lui donner un coup de main pour le nettoyage de l'atelier de découpe. Elle me promet un morceau de viande en échange. J'accepte tout de suite. Lorsque je lave le sang et les viscères tombés sur le sol, je parviens à maîtriser mes haut-le-cœurs en imaginant le sourire de mon père quand il découvrira son assiette. Avant de partir, Madame Berton me remercie et me tend un petit paquet. Je rentre chez moi à toute vitesse, trop heureuse de cette merveille dans mes mains. Lorsque j'ouvre le paquet, l'odeur, terrible, me retourne l'estomac. Je découvre quelques bouts de gras et un morceau de viande avarié. J'ai envie de pleurer, de rage, de dégoût. Je prends mon courage à deux mains, fais fondre le gras, puis jette la viande dans la poêle et déverse une quantité importante de ce thym qui me sert d'ordinaire à masquer la fadeur des soupes et topinambours. Le morceau reprend peu à peu une teinte et une odeur acceptables. Le goût n'est pas extraordinaire, mais mon père est heureux. Il m'embrasse, me tient longtemps contre son torse chaud. Ce moment reste l'un de mes plus beaux souvenirs de ces années-là. À ma hauteur de petite fille, je perçois quelque chose de malsain dans l'idée même de rétribuer une enfant avec de la viande avariée. Mais le bonheur de mon père efface les doutes. Je ne comprends pas grand-chose à la situation politique. Je sais que nous sommes en guerre, bien sûr, qu'il faut filer à la cave si une sirène retentit, en emportant avec soi le masque à gaz distribué à l'école. Je sais aussi que les soldats italiens sont des méchants et que nous ne sommes pas comme ces Italiens-là. Se faire traiter d'Italien est une insulte, plus que jamais. Mais moi, je me sens française. Je n'ai jamais mis les pieds en Italie. Je chante la Marseillaise, ne connais pas l'hymne italien, ne parle pas l'italien, car papa ne veut pas que je l'apprenne. Et puisque papa parle mal le français, la plupart du temps, il ne parle pas. Un soir, après le nettoyage de sa boutique, Madame Berton me lance un grand sourire et me demande si je serais intéressée par deux belles côtes de bœuf parfaitement saines. Elle me les montre, j'en salive d'avance, imagine la joie dans les yeux de mon père et mon cœur saute dans ma poitrine. Tandis qu'elle me les enveloppe, elle me demande si je suis bien dans la classe d'Héloïse Martin. J'acquiesce. Madame Berton sait que les Martins habitaient l'étage en dessous du mien, qu'ils ont déménagé il y a peu. Elle m'explique vouloir envoyer un colis de viande à Madame Martin, qui était si gentille, mais ne pas connaître sa nouvelle adresse. Est-ce que je saurais par hasard où la trouver ? Je secoue la tête, mais lui fais part de tout ce que je sais sur cette famille. Héloïse Martin était l'une des filles de ma classe avec lesquelles je m'entendais bien, peut-être parce que nous étions voisines. Aussi est-elle venue me dire au revoir tout en restant évasive sur sa destination. La nuit de leur départ, lorsque j'ai entendu du mouvement, je me suis mise à la fenêtre. J'ai vu entrer les Martins quelques mètres plus loin, dans la boutique du cordonnier. Je pensais les voir ressortir rapidement, mais au bout de 10 minutes, ils y étaient toujours. Alors je suis retournée me coucher. Au matin, Héloïse n'était pas à l'école. J'ai compris qu'ils avaient continué leur route, mais je ne peux pas savoir dans quelle direction puisque je dormais. Madame Berton me remercie, me sourit, me donne les côtes de bœuf et le soir est un véritable festin. Le lendemain à l'école, tout le monde ne parle que des événements de la nuit. De la rafle des familles juives du quartier, dont la famille Martin, qui se nommait en réalité Weinberg et qui vivait cachée dans la cave du cordonnier. De la dénonciation dont ils ont été l'objet. Des 1 000 francs par tête offerts aux délateurs, de ce que les Juifs deviennent ensuite. Je ne suis plus jamais retournée chez Madame Berton. Je n'ai plus jamais mangé de côte de bœuf de ma vie. J'ai tu ma honte infinie, ma tristesse absolue, ce sentiment de culpabilité qui me dévore. Je n'ai jamais pu parler de ce que j'avais fait. Peu de temps après, Madame Berton a été arrêtée et exécutée par les FFI, et j'ai appris ce qu'il était advenu des Weinberg. Les parents et grands-parents ont été internés à l'hôtel Excelsior, tout proche, qui était le quartier général de la section anti-juive de Nice. De là, ils ont été envoyés à Drancy, puis à Auschwitz, où ils ont été assassinés. Héloïse et son jeune frère ne faisaient pas partie de la liste des déportés. J'ai longtemps cherché à savoir ce qu'ils étaient devenus, mais ce n'est que dans les années 1980 que j'ai su. J'ai été soulagée d'apprendre qu'ils avaient bénéficié de l'aide de la résistance, et notamment du réseau Marcel de Moussa Abadi et Odette Rosenstock, qui a organisé le sauvetage de 527 enfants juifs de la région niçoise. Héloïse et son frère ont été placés dans un orphelinat laïque de Cannes sous de fausses identités. Avant de retourner vivre 2 ans plus tard sur les hauteurs de Nice, chez leur tante, parvenue à échapper à l'horreur. J'approche du lieu de rendez-vous et l'émotion est intense. Le ciel, orageux, est au diapason. L'air est lourd, aussi chargé que mon cœur. La promenade des Anglais est bondée. Touristes niçois en goguette, j'ai peur de ne pas la retrouver. C'est son fils que j'ai eu au téléphone. Je ne lui ai pas indiqué le motif de ma visite, seulement que nous étions des amis d'école. Il m'a rappelé 10 minutes plus tard pour accepter l'invitation. J'aperçois près du banc convenu une dame âgée en fauteuil roulant et un homme d'une 50aine d'années assis à ses côtés. Mon rythme cardiaque s'accélère. À mi-chemin, je stoppe ma marche. Je me sens incroyablement naïve tout à coup. Comment lui présenter les choses ? « Bonjour Héloïse, tu ne te souviens sûrement pas de moi, mais c'est ma faute si tes parents sont morts. Je suis désolée, mais tiens, voilà 100 000 euros pour me donner bonne conscience. » Qu'est-ce que je peux être sotte ? Je me mets à trembler et fixe cette dame en fauteuil roulant à m'en user les yeux. J'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine. « Gina ?» Je me retourne. Elle est là. Je jette un coup d'œil à la vieille dame près de la plage qui n'a pas bougé. Je me suis trompée. Héloïse Weinberg se tient debout, devant moi. Impossible de ne pas reconnaître ses yeux. Ses yeux qui m'ont hantée. Ses yeux auxquels j'ai associé les pires souffrances. Ses yeux qui sourient à cet instant précis. Héloïse, tu n'as pas changé. Elle rit d'un rire franc. Et son rire balaie la noirceur de mes pensées. C'est faux. Je suis une vieille femme maigre et fripée, mais je me déplace encore sans chaperon. J'ai demandé à mon fils de me déposer et de m'attendre au bar du Beau Rivage, là-bas. Elle désigne une plage privée, en contrebas de la promenade. Elle me prend par le bras, propose que nous nous attablions un peu plus loin, me dit que ça lui fait plaisir de savoir que je suis en vie. Je lui réponds timidement qu'il en est de même pour moi. Elle ne peut pas savoir à quel point. Pendant plus de 30 minutes, nous nous racontons nos existences, de manière polie, inoffensive. J'évite d'aborder les sujets fondamentaux, reste en surface, et je vois bien qu'elle adopte une technique identique. J'attends qu'il y ait un blanc dans la conversation pour me lancer. C'est maintenant ou jamais, Gina, sois courageuse. Tu n'es pas venue ici pour craquer si près du but. Alors je lui demande de m'écouter, de me laisser parler, lui avouant que ce que j'ai à lui dire est sans doute l'une des choses les plus difficiles, pour moi bien sûr, pour elle surtout. Tout au long de mon monologue, elle me fixe sans mot dire, mais je vois bien ses yeux qui vacillent. Lorsque je me tais enfin, lorsque tout est dit, je ne sais pas à quoi je m'attends. Peut-être à des cris, des insultes, qu'elle m'envoie son verre au visage. À la place, elle me sourit faiblement et prend la parole à son tour. « Gina, je ne sais par où commencer. Tout d'abord, merci pour ton honnêteté et merci pour ton offre. 100 000 euros, mazette, ça n'est pas rien. Je suis désolée que tu ne m'aies pas contactée plus tôt, Cela t'aurait épargné des années de remords inutiles. » Je la fixe sans comprendre. Elle continue. « Ça n'est pas Madame Berton qui a dénoncé ma famille. Peut-être qu'elle a voulu le faire, mais d'autres l'ont prise de vitesse. Les documents retrouvés sont très clairs. Les délateurs qui ont été rémunérés pour la révélation de la cage de mes parents, ce sont les Dubois, le couple de teinturiers de notre rue. J'accuse le coup. Je ne sais plus quoi penser. Mais Madame Berton a bien été fusillée, non ? Madame Berton avait tout un tas d'autres choses à se reprocher, crois-moi. Même si elle n'est pas directement responsable de la mort de mes parents, elle en a envoyé bien d'autres dans les camps de la mort. Les FFI l'avaient dans le collimateur depuis longtemps. » Elle pose sa main sur la mienne. Et ce contact, je ne sais pas comment l'exprimer, ce contact est sans doute le baume le plus extraordinaire qu'il m'ait été donné de recevoir. Gina, nous étions des enfants. Tu n'étais qu'une enfant, manipulée par une adulte qui n'a pas hésité à utiliser une gamine crevant de faim pour lui soutirer des informations. Tu es innocente, Gina. Tu l'as toujours été. Les larmes dévorent mes joues. Héloïse me sourit. Après quelques instants de silence, elle m'explique que, depuis la guerre, elle a mis un point d'honneur à vivre pleinement. Rester conscient de la chance que l'on a d'être en vie, profiter de tout ce qui reste, de chaque minute, c'est le meilleur moyen d'honorer la mémoire de nos disparus. Nous restons comme cela de longues minutes à nous regarder sans prononcer le moindre mot, émus. Et puis, sans crier gare, Héloïse décide de commander une bouteille de rosé pour fêter nos retrouvailles. Car le rosé aussi, c'est la vie. Je ris et me range à cette saine philosophie. La discussion prend une toute autre tournure. L'alcool aidant, nous allons même jusqu'à nous confier certains détails intimes de nos vies. Elle m'écoute, je bois ses paroles en retour. Je crois que ces courts instants passés ensemble nous font un bien fou, à toutes les deux. Après 2 heures de discussion animée et une bouteille de vin, il est temps de nous séparer. « Tu sais, Gina, j'aime beaucoup cette démarche que tu as entreprise. À notre âge, remercier, s'excuser, cette sorte de bilan comptable de son existence, je trouve ça merveilleux. Je crois que je vais faire la même chose. Bon, d'accord, je n'ai pas 100 000 euros à offrir à chaque personne ayant compté dans ma vie. Et d'ailleurs, à ce propos, il est bien évident que je refuse que tu me donnes quoi que ce soit. Si tu n'acceptes pas cette somme pour toi, accepte-la pour tes enfants et petits-enfants. Cet argent n'était pas à moi il y a un mois de cela. Je ne le considère toujours pas comme mien. Dans ma tête, cette partie-là te revenait. Et ce que tu viens de faire pour moi aujourd'hui est autrement plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ça n'est pas négociable. » Elle réfléchit un instant, puis lève son verre et me lance. « Si tu veux faire quelque chose de cet argent, je te propose de le donner à une œuvre caritative qui s'occupe d'enfants. Ça n'est pas ce qui manque dans l'histoire récente, les enfants malheureux. Je ne peux qu'adhérer à cette idée. Elle m'émeut, me transporte. Alors je me range à son souhait. » Héloïse Weinberg, tu es une femme admirable. Je suis venue pour m'excuser et je repars avec le cœur rempli de joie. Elle me regarde avec intensité puis me lance. Le cœur rempli de joie et le gosier rempli de rosée. Nous éclatons de rire et levons nos verres une dernière fois aux petites filles que nous avons été, et qui sont toujours là, quelque part, au fond de nous.